Bonsoir et bienvenue dans Ondes Noires, l'émission polar la plus rock de la bande FM.
Bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne.
Et sans plus attendre, nous rejoignons Jean-Marc Laherrère. Bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir à tous les deux.
On va passer de l'autre côté de l'Atlantique en Amérique du Sud, je crois.
Voilà. Oui, on va passer. Enfin, on va être en partie de l'autre côté de l'Atlantique et puis en partie de ce côté-ci, avec le roman d'un auteur argentin qui s'appelle Raoul Archemi. Ce roman s'appelle « À tombeau ouvert ». Il est paru chez Rivage Noir et il est traduit par Alexandra Carrasco. Alors, Raoul Archemi, c'est pas un inconnu pour les amateurs de polar. Ça fait un moment qu'on n'avait pas de nouvelles.
Ouais.
Et avec ce « À tombeau ouvert », il revient avec un roman très très sombre, très assez désespéré, assez pessimiste. Donc ça démarre en 2012 à Barcelone, où on rencontre un certain Carles Ripoll, donc un bon catalan visiblement, qui est un publicitaire sur le déclin à Barcelone. Et cette année 2012, il est contacté via Facebook par un correspondant qui signe The Dead. Et ce qui se passe, c'est que ce The Dead, en fait, ne s'adresse pas à Carles Ripoll, qui est en fait un personnage inventé, une fausse identité, mais à Juan Hiram Gutiérrez, qui est un Argentin, qui a été membre d'un groupe de lutte armée d'extrême gauche dans les années 70, et qui fait partie de les quelques rares qui ont réussi à fuir les massacres de la junte de Videla dans les années 70. Et donc la question est, qui est cette personne qui l'a contacté en sachant qui il est? Est-ce que ce sont des anciens camarades? En fait, on va s'apercevoir vite qu'à un moment où il était devenu évident que la lutte était perdue, le petit groupe auquel participait Juan s'était regroupé une dernière fois pour mettre un magot à l'abri dans une banque suisse, et puis c'était complètement éparpillé. Et donc, qui est-ce qui le recontacte? Est-ce que c'est un de ses anciens camarades, pourtant qu'il croit mort pour une bonne partie d'entre eux? Est-ce que ce sont d'anciens tortionnaires qui, en torturant ses camarades, ont su qu'il y avait un magot à la clé? Qu'est-ce que c'est? Ben ça, comme il n'en peut plus de fuir et de vivre avec tous les fantômes avec lesquels il vit, ben il décide de retourner en Argentine, à Buenos Aires, et de tirer ça au clair, quitte à livrer une dernière bataille. Voilà, ça c'est l'intrigue. Et attention, ça secoue, parce que en fait, ce Gutiérrez, il c'est pas quelqu'un de très aimable. Raoul Archemi n'a pas cherché à créer un personnage de guerriero romantique et agréable. Non. D'abord, c'est un personnage qui ne se supporte pas, qui a honte d'avoir fui et d'avoir survécu alors que d'autres sont morts. Il a une rage permanente, il est très amer. Et il est d'une violence qui ne demande qu'à exploser en permanence, parce qu'il est un peu tout le monde, à commencer par lui. Alors, même si à cette époque-là, c'est la seule alternative à la fuite, c'était la torture et la mort, il supporte pas ce qu'il est devenu en Espagne, cette espèce de publicitaire qui gagne du fric. En méprisant les gens avec qui il en gagne, il vomit les tièdes et les lâches, il supporte pas ceux qui font des grandes phrases, les grandes phrases en parlant de la lutte romantique et autres sans l'avoir vécu, sans savoir ce que c'est, il supporte pas l'Espagne qu'il a connue de la movida, où il trouve qu'en fait c'est juste un prétexte pour se bourrer la gueule et prendre de la drogue, mais que ça m'amène à rien, il supporte pas les traîtres, il supporte pas les amnésiques, enfin il est très difficile, il est compliqué.
Oui, tu es
compliqué, voilà.
Difficile. Donc, c'est sûr.
Voilà, et avec ce personnage, tout le monde en prend un peu pour son grade. Et puis on se dirige quand même vers une fin qu'on devine pas très rigolote. Et effectivement, cette fin n'est pas drôle. Alors ce qui rajoute en plus un peu de... Alors, qui adoucit d'une certaine façon, mais qui rajoute aussi un côté très sombre et très noir qui fait mal au ventre, c'est qu'à la fin, Raoul Archemi remercie tous les vivants et les morts auxquels il a emprunté tel ou tel trait ou telle anecdote. Et quand on sait que Raoul Archemi a participé à des groupes d'extrême gauche de la lutte armée, qu'il a été arrêté, qu'il était dans les prisons de Videla, qu'il vit maintenant en Espagne, on se doute bien que dans ce personnage-là, il y a quand même une part de lui.
Oui.
Laquelle, comment, il y a beaucoup de vrai dans tout ce qu'il raconte. Par contre, donc, c'est très dur, mais c'est très bien fait, c'est très bien écrit. on est pris dans cette espèce de rage, de colère permanente. On est embarqué par le personnage. Alors je vous dirais pas que c'est vous finissez avec le sourire, mais c'est vraiment une espèce de chute, de fuite à tombeau ouvert là vers.
Oui, c'est le titre où... déjà montre le rythme oui. qu'il doit y avoir oui. qu'il y a dans ce récit.
Voilà. Alors pour ceux qui seraient effrayés par ce livre et qui peuvent quand même le lire parce qu'il est quand même très très fort, Rivage a eu en même temps l'excellente idée de rééditer un précédent roman de l'auteur qui s'appelait Patagonia.
Ah oui, j'allais l'évoquer, qui est une petite merveille aussi.
Et voilà, qui est un vrai bonbon là par contre.
Ah oui.
C'est un roman d'aventure en compagnie d'une bande de cinglés absolument extraordinaire. Sur un petit train qui n'existe plus en Patagonie, sur les traces de Butch Cassidy du Kid. Avec, moi j'ai le souvenir d'un match de foot hallucinant entre des touristes allemands et puis les locaux.
Ah, il y a des scènes.
Ah oui, il est extraordinaire. Donc, ce que je vous conseillerais, c'est de lire À tombeau ouvert parce que c'est un très beau roman, très dur, mais qui aussi dresse le portrait d'une génération, je pense. Et puis de vous préparer Patagonia Chouchou pour vous remonter le moral derrière.
Oui, c'est une bonne idée, surtout Patagonia est en rivage noir, donc c'est un tarif en poche, c'est un tarif très, très raisonnable.
Exactement.
Donc, mais voilà, ça, en plus, je trouve que c'est bien parce que ça donne deux visions de l'Argentine. Ça donne, voilà, cette mosaïque, et ce qui fait aussi le cerveau d'un être humain, c'est-à-dire des bons souvenirs et des choses plus tragiques et plus dramatiques. Voilà. Mais qu'il faut quand même lire parce que faut pas oublier tout ça non plus, hein.
Et voilà, oui, en ce moment où en Espagne, par exemple, l'extrême droite revient, parce qu'il y a des gens qui oublient, où on veut pas déterrer le corps de Franco pour le laisser dans son mausolée, ou enfin, oui, c'est bien de se souvenir d'un certain nombre de choses, de souvenirs de générations qui, avec les erreurs qu'elles ont faites, portaient quand même aussi certaines illusions, certains espoirs, certaines grandeurs quand même, et voir comment aussi de vouloir... trop de dogmatisme amène à cette espèce de désespoir, d'aigreur, c'est bien à lire.
De désespérance.
Ça. De désespérance, oui. C'est très bien à lire, mais après, se remonter le moral avec Patagonia Chouchou, c'est pas mal aussi.
Oui, très bien. Bon, on vous remercie beaucoup de vos conseils et puis on vous souhaite un bel été parce que nos émissions, voilà, ça va bientôt être terminé. Là, on arrive à la fin du mois de juin. Donc, profitez pour lire plein de livres et nous revenir à la rentrée avec plein de bons conseils. Sinon, on vous retrouve sur votre blog, j'allais dire site, mais c'est un peu pareil, sur votre blog, Actu du Noir. Voilà, et donc avec encore plein d'autres bons conseils et puis des tas d'articles à compulser, à consulter, mais de manière compulsive parce que la plupart des chroniques donnent envie de lire. Merci beaucoup Jean-Marc, à bientôt.
Merci à vous, bonne émission et bonnes vacances à vous.
Merci.
Au revoir.
Au revoir. Un petit peu de musique.
Un petit peu de musique. Donc on va écouter un artiste, un musicien niçois qui s'appelle Benoît Bérou. Son groupe s'appelle Benoît et la Lune. Il vient il y a quelques semaines de publier un album qui s'appelle La vie est un acte de piraterie.
C'est long comme titre.
Voilà.
Sur le CD, hein.
C'est tout à fait dans l'humour et l'amour de Benoît pour la musique, pour les gens, pour plein
pour
de choses.
Pour
les mots surtout. Écoutez cet album et nous on va écouter. Il chante en anglais, en français et dans une langue qu'il s'est inventée. Là, le morceau qu'on va écouter est en anglais. Il joue toujours du ukulélé, bien sûr. Ukulélé branché électriquement. Et le morceau s'appelle Drunk Blues.
Alcohol to make me burn until tomorrow. fiche.
Eh bien voilà, donc c'était Benoît et la Lune, et sans transition, comme on dit, je vais maintenant vous parler d'un recueil de nouvelles. Ce recueil s'appelle Banlieue Noire, c'est sorti il y a à peu près 2 mois chez Asphalte, les éditions Asphalte, et ces nouvelles...
Banlieue parisienne noire.
Et ces nouvelles ont été collectées, rassemblées, cet ouvrage a été dirigé par Hervé Delouche, un fin connaisseur du roman noir qui a été aux manettes de ces nouvelles. Alors, ce recueil s'inscrit dans une série, Cette série, ça s'appelle Asphalte Noir. Le principe, c'est des anthologies de nouvelles où des écrivains qui connaissent bien un territoire centrent leur récit dans cet espace. Souvent, la plupart du temps...
C'est une ville.
Voilà, tout le temps même, le sujet, c'est une ville. Donc on a eu Barcelone Noire, Mexico Noire, New Delhi Noire...
On avait longuement parlé de Marseille Noire ici.
Voilà, Marseille Noire, Paris Noire. Et l'on sait à quel point d'ailleurs le roman noir s'inscrit souvent dans des urbanités. Mais le roman noir, c'est aussi les marges, qui définissent souvent le centre. Parler de la banlieue à Paris, c'est actuellement peut-être...
C'est mathématiquement pas très correct.
Non, c'est sûr, mais bon, on est en littérature là-haut. Donc, comme je disais, parler des banlieues, c'est peut-être plus prendre le pouls de ce qui se passe vraiment dans ce grand centre urbain et aller plus à la rencontre des gens. Sans pour autant dire systématiquement que les banlieues concentrent les problèmes sociétaux, la population, je dirais... Les vrais gens, qui sont souvent rejetés du Paris intramuros à cause des tarifs prohibitifs et d'un tas d'autres raisons. Voilà, c'est donc peut-être aussi sans caricaturer, comme certains partis ou médias, que je dirais un peu radicaux, que c'est là que l'on concentre les crises, et donc que le roman noir va bien s'exprimer. D'abord, quand on aura ce recueil, commencez absolument par la préface d'Hervé Delouche, qui situe parfaitement le thème, linguistiquement, historiquement, littérairement. Je cite...
Et géographiquement.
Et bien sûr, mais là, c'est déjà fait. Bon, il y a une carte d'ailleurs avec les 13 banlieues dont parlent les 13 auteurs choisis. Je cite... Les banlieues parisiennes ne se résument pas à un triptyque, pavillon, bar, centre commerciaux. Elles forment un kaléidoscope aux paysages et aux architectures contrastées, aux habitants bien vivants et non... aux fantômes de passage. Donc, j'ai déjà cité 13 nouvelles. Je ne citerai pas tous les auteurs, tous les lieux. Important, et c'est aussi dans la charte de ce type d'anthologie, ces nouvelles sont regroupées en 4 thèmes. Et ces thèmes, ici, ont vraiment du signifiant. Première partie, offensés et révoltés. Deuxième partie, tentative d'évasion. Eh oui, la banlieue, c'est souvent une prison et on peut trouver bien des moyens d'essayer de s'y échapper, d'y échapper. Troisième partie, les Scarface des banlieues. Là, on voit tout de suite les protagonistes. Enfin, fantômes du passé. Car si Paris ne s'est pas construit en un jour, ces banlieues non plus. Et il est très intéressant de comprendre comment on a pu arriver aux situations actuelles. Et il est d'ailleurs assez passionnant de voir que la dernière nouvelle du recueil est en écho avec la première, en un cercle jamais refermé. Alors la dernière nouvelle, elle s'appelle...
Ça aussi, c'est mathématiquement pas
oui,
très correct.
Oui, c'est ça. Cette dernière nouvelle s'appelle « Le jour où Johnny est mort ». C'est une nouvelle, très jolie nouvelle de Patrick Péchereau. Évoque un temps, il y a quelques années, où, je cite Patrick Péchereau, « la banlieue trimait, prolétaire, ceinture rouge de la capitale ». Un temps où l'on va en Luma le dimanche matin. Je recite Patrick Péchereau, et l'Algérie est un beau pays. Le tir au pigeon se pratique au soleil. On est en plein dans la guerre d'Algérie. C'est aussi un temps où Georges Marchais se plaint que les immigrés prennent les logements, les HLM, aux Français de souche. Eh oui, on s'en rappelle pas de ça. Ne nous étonnons pas alors que dans la première nouvelle, Chloé Mehdi nous parle d'une jeune fille, maintenant, à l'heure actuelle, Sofiane, qui ne se reconnaît pas dans cette France, qui se débat dans les clichés jetés n'importe comment par des médias sans mesure ni nuance. Et donc, après des attentats, après des manifestations, Sofiane, elle a la haine et elle pourra crier et écrire « Non, je ne suis pas Paris ». Entre-temps, on aura fait un tour à Montreuil, à Mantes-la-Jolie, pour lire une magnifique et surprenante nouvelle de Christian Roux, un petit bijou d'humour noir et d'humanité. On a aussi une Sassanée, on va croiser Mani, un personnage magnifique avec sa belle association L'Arbre à Palabre. Mais voilà, je vous laisse découvrir tout ça. On pourra même se perdre en forêt de Fontainebleau. Et oui, Fontainebleau, c'est la lointaine banlieue parisienne. Je ne vais évidemment pas raconter les 13 nouvelles. Juste conclure en expliquant que ces textes, très disparates en style et en genre, dessinent un paysage de la banlieue actuelle très réaliste et très sensible. On est en banlieue de Paris, mais cet opus aurait pu aussi se retrouver dans d'autres villes, Marseille, Lyon ou encore Nice, parce que la banlieue, elle est un peu partout pareille. On se retrouve dans la deuxième partie d'émission. À tout de suite.